Europe 1.
On voudrait tous avoir une seconde chance dans la vie. Mais quand on plonge dans l'illégalité, le chemin vers la rédemption est rarement facile. Après des années passées sur la mauvaise pente, certains parviennent malgré tout à faire marche arrière. À la faveur d'un événement ou d'une rencontre, ils ont rompu avec un passé trouble. Des repentis qui ont trouvé la voie vers la paix. Comment ont-ils réussi à tourner la page, à se débarrasser de leurs démons? À quoi ressemble leur nouvelle vie, loin de la brutalité et de la violence qui faisaient leur quotidien? Pourquoi mettre leur parcours au service des autres? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de David. Sa vie a basculé le jour où il a découvert la foi, à l'âge de 19 ans. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les bienvenus. En 1995, une vague d'attentats endeuille la France pendant l'été. L'assassinat de l'imam Sahraoui, l'attentat du RERB à Saint-Michel et trois semaines plus tard une bombe place de l'Étoile, ainsi que plusieurs autres attentats ou tentatives font en tout 10 morts et des dizaines de blessés. Les commanditaires de ces attentats sont des terroristes algériens du GIA, le groupe islamique armé. Le 29 septembre, Khaled Kelkal, l'un des membres du GIA impliqué dans ces attentats, est abattu à Vaugneray, près de Lyon. Plusieurs coups de filet dans les milieux islamistes ont permis d'arrêter la quasi-totalité des personnes impliquées. Le 31 août 1995, un certain Daoud l'Algérien est interpellé au domicile d'un homme appartenant à cette mouvance. Daoud s'appelle en réalité David Valla. Il est français et venait de quitter le GIA dont il ne cautionnait plus l'action. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, David est complètement sorti de la spirale djihadiste. Il lutte contre cette doctrine radicale venue des pays du Golfe.
Notre adversaire, c'est le wahhabisme et le mouvement des frères musulmans. Les deux ont le même objectif.
Pour comprendre comment cet ex-djihadiste est devenu un opposant farouche à l'islamisme radical, j'ai voulu qu'il me raconte son parcours. C'est à Villefontaine, tout près de Lyon, que je le retrouve. David.
Bonjour.
Bonjour. C'est votre quartier
C'est le quartier où j'ai grandi, Les Oursons, à Villefontaine. C'est bucolique, hein. On est loin de l'idée du tout béton.
David a été élevé ici avec son frère et ses deux sœurs par une mère seule, catholique, non pratiquante. Leur père les avait abandonnés quelques années après sa naissance. Dès l'enfance, David fait preuve d'un fort caractère. Il s'intéresse très tôt à la politique et à l'âge de 19 ans, il se convertit à l'islam.
Je me convertis à un islam qui me donne une vue pacifiée du monde. Et je prends bien conscience du statut des prolétaires de notre pays d'origine étrangère. Et ces gens-là supportent des conditions de travail très dures, des salaires très bas, souvent du racisme dans la vie civile. Mais ces gens-là ne sont ni dans la haine, ni dans le rejet, ni dans un esprit revanchard, ne sont pas racistes, sont courageux, endurants. Lorsqu'on me reçoit chez eux, on ne voit pas David, le petit Français, issu de cette communauté qui nous a fait souffrir. Au contraire, on me reçoit avec tous les égards, on me donne à manger, je fais partie quasiment de la famille de mes amis à cette époque-là. Et c'est ça qui me parle, c'est cet aspect humain de cette religion qui permet aux gens d'appréhender ce monde de façon pacifiée. C'est après que je vois arriver dans les mosquées des jeunes qui, eux, tiennent un autre discours, tout à fait à l'opposé. D'ailleurs, les jeunes diront à ces vieux, vous avez un islam d'endormi, et les vieux diront aux jeunes, vous avez un islam nouveau qu'on ne connaît pas.
À l'âge de 15 ans, vous êtes dans un islam
tranquille,
modéré.
Mais je ne pratique pas. C'est après que ça devient rigoriste. Lorsque je me convertis, je reste encore une année à l'école. Le jour où j'entends qu'à 16 ans, ce n'est plus obligatoire d'y aller, je suis né le 27 juin, je finis mon année le 28 de cette année-là. Et on ne me reverra plus sur les bancs de l'école avant plusieurs années. Parce que j'entends réussir dans la vie sans diplôme. Je suis de cet orgueil-là à l'époque. Et entre 16 et 19 ans, j'emprunte une voie qui commence à s'apparenter au banditisme. C'est de la délinquance, ça commence à devenir de la délinquance plus conséquente. Et je me rends compte que c'est une impasse.
Comment est-ce que vous vous rendez compte que c'est une impasse?
Un soir, nous sommes avec plusieurs amis dans une voiture. Des gendarmes se mettent en tête de nous contrôler. Celle-ci est volée. Le conducteur, il a un casier judiciaire long comme un jour sans pain. Il ne veut pas retourner en prison, donc veut se dégager du contrôle. L'un des gendarmes échappe à se faire écraser par le véhicule. Ils ouvrent le feu. Je rentre chez moi et je me dis que je vais finir dans un interligne de faits divers et voilà où ça va me mener, toutes ces histoires. Donc je me ressaisis, j'arrête toutes ces âneries et je me mets à pratiquer cette religion, mais cette fois de façon sérieuse. Avec les 5 prières par jour, j'arrête les bêtises. Ensuite, je dois effectuer mon service militaire. J'y réchappe pas. Alors, j'y vais en traînant la patte, ouais. Réellement.
À 19 ans, il y a un événement qui va vous précipiter
oui.
Dans l'islam radical. Dans.
Je me mobilise.
Dans quelles conditions
Je finis mon service militaire et un jour, je rentre chez moi, donc ici, et je tombe sur un témoignage de Médecins Sans Frontières, une femme qui revient d'Yougoslavie, et elle nous signifie que ce qui nous est présenté comme des opérations de maintien de l'ordre de la police ne sont ni plus ni moins que des exactions terribles à l'encontre des civils. Et je reçois ça comme un obus de 155 en pleine face. En réalité, je vois le néant s'ouvrir devant moi. Je sais que la famille, je risque de pas la revoir, et je sais que je vais devoir y aller. Pourquoi ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis jeune, plein d'élan, j'ai une très bonne formation militaire. Je sais que je risque d'être efficace très très vite sur place. Mmh. Je doute pas de ça. Qu'ils aient été musulmans à l'époque, ça n'est presque pas significatif. Ils auraient pu être catholiques ou orthodoxes, que subissant ce qu'ils subissaient, ça ne m'était pas supportable, insupportable. Et donc j'y vais.
En 1993, David part donc en voiture avec 8 de ses amis pour la Bosnie, combattre aux côtés des musulmans bosniaques massacrés par l'armée serbe. Le trajet passe par la Croatie, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au moment même où David et ses amis traversent la Croatie, celle-ci vient elle aussi de déclarer la guerre à la Bosnie. Le groupe de David se retrouve soudain sous les tirs des Croates alors qu'ils ne sont pas encore armés.
À ce moment-là, je réalise que je peux mourir avant même d'avoir rejoint les unités combattantes. Et surtout, je me rends compte que je ne vais peut-être pas voir le lendemain. Donc j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose qui me permette de ne pas chanceler. Et cette idéologie me permet un élan. Je n'ai plus peur de qui que ce soit.
Alors vous parlez de cette idéologie qui est l'idéologie...
Le djihadisme.
Le djihadisme, le wahhabisme.
C'est ça. Mais la partie du wahhabisme que je valide, parce que c'est celle qui m'intéresse, c'est de valider de mourir martyr. Et de toute façon, je serai gagnant. La première opération qu'on va me confier, soit je l'emporte sur l'ennemi, soit il me tue et je vais au paradis. Donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Dans cette idéologie, c'est ce qu'on vous dit. Et vous le validez. Et une fois que vous le validez, ça fonctionne.
On peut aisément comparer ce que vous sentez à l'époque avec ce que sentent aujourd'hui tous ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie, en Irak.
Il faut absolument avoir à l'esprit que ces jeunes-là sont persuadés d'avoir un au-delà où ils seront récompensés. Sans ça, ils ne meurent pas. Sans ça, ils ne veulent pas mourir.
Vous êtes, à l'époque, dans cet état d'esprit-là.
Dans cette logique-là.
Vous êtes capable, du jour au lendemain, d'aller faire une opération martyr ?
Opération martyr, mais j'entends bien ne jamais m'en prendre à des civils. Mais si, par voie d'explosif kamikaze, j'avais pu dégommer un poste de police ou une caserne, en avant.
Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Nous essayons à plusieurs reprises de rejoindre les unités combattantes. Et notre contact nous dit que c'est un chaos indescriptible, que tout est désorganisé, que ça n'est plus le moment de venir, mais que ça le sera plus tard, une fois que tout se sera stabilisé, et qu'il faut que nous rentrions en France. Ce que nous faisons. Et là, je passe en mode Kouachi et Koulibaly. Je cloisonne tout. J'entends y retourner, mais je n'en parle à personne. À ce moment-là, je dors djihad, je mange djihad, je travaille djihad. Parce que mon objectif, c'est de retourner en Bosnie et d'être efficace. Mais personne ne le sait.
Pour préparer son retour en Bosnie, David décide de rejoindre un camp d'entraînement en Afghanistan. Pendant 10 mois, il y reçoit une formation au djihad.
La vraie bascule, en réalité, en Afghanistan, au-delà de l'entraînement militaire, c'est Émir qui m'observe. Un soir, nous avons une conversation. Et il me demande, pourquoi es-tu là ? Ça fait plus de 6 mois que je suis là déjà, il a eu le temps de m'observer. Et je lui dis que je suis là pour être martyr. Et il me demande si je suis sûr. Je lui réponds que oui, par l'affirmative, en m'affirmant en plus. Et il me répond, bah rentre chez toi. Et là, je suis désarçonné. Et je comprends pas. Et je lui demande, mais pourquoi tu me dis ça ? Et il me répond, et c'est là, c'est vraiment un moment clé dans mon parcours, il me dit, le martyr peut être une récompense que tu vas trouver sur ce chemin ou pas. En revanche, tu dois combattre pour que le verbe de Dieu soit le plus haut. Parce que lui pressent en moi des capacités de propagandiste ou de formateur ou de théoricien ou de stratège ou que sais-je. Donc, je suis plus intéressant pour cette mouvance actif qu'à me faire péter avec une ceinture.
Allez vous faire exploser, ça serait du gâchis.
Exactement.
On peut y voir aussi donc qu'aujourd'hui, tous ces gamins qui peuvent se faire sauter dans des opérations martyrs sont finalement peu considérés.
C'est le prolétariat de la guerre. C'est la chair à canon moderne. C'est-à-dire, quand vous êtes stratège, sur vos 20 soldats, il y a 3 cons, c'est d'eux dont vous devez vous débarrasser. Donc les gars, opération suicide, c'est efficace.
Vous arrive-t-il d'avoir des discussions et des frictions ?
Très souvent, mais il y a un Algérien parmi nos formateurs qui est un ancien commando parachutiste algérien qui a combattu contre les soviétiques, qui y est là-bas depuis longtemps. Et lorsque j'y vais, je dis que je suis français. Mais je parle le dialectal algérien que j'ai appris avec mes amis. Et lui, le fait que je dise que je suis français alors qu'il est persuadé que je suis algérien, ça passe pas. Et un matin, au sport, nous sommes donc avec nos kalachnikovs et nos chargeurs, en train de faire des pompes à un moment, et il m'appelle une première fois Gaouri. Gaouri, en algérien, ça signifie le français. Mais c'est un mot d'origine turque qui signifie le non-croyant, le non-musulman.
Donc c'est une sorte de provocation.
C'est ça. Il m'appelle une première fois Gaouri. Je me dis, bon, il n'a pas fait gaffe, c'est pas grave. Deuxième fois Gaouri, je fais, ah, haouz haj, il cherche quelque chose. Troisième fois Gaouri, je me lève, balle au canon, je le braque pas, mais je tiens mon clash et je lui dis appelle-moi encore une fois comme ça et je t'envoie une convocation au tribunal divin tout de suite. Lui est armé, il stat également et tous ceux qui font des pompes restent au sol. Il n'y en a pas un qui relève la tête parce qu'ils savent que ça peut canarder dans la seconde. Et il y a un piaf qui se met à siffler, ça arrête le truc plutôt que de le déclencher. Et après ça, les gens m'ont surnommé l'Algérien parce que ils m'ont dit, seul un Algérien est capable de réagir comme tu l'as fait, ne nous dis plus que t'es français. Et on m'appelle Abou Muslim Djezairi. Et ça a une importance dans la suite de mon parcours, parce que les Algériens du GIA qui entendent qu'il y a un de leurs compatriotes en Afghanistan, qui se fait remarquer, qui plus est, n'est pas dans leur mouvance. Et ça, ça... Comment ça se fait que ce gars, il n'est pas dans notre truc ? Faut qu'on le récupère.
Depuis décembre 91 et l'annulation de la victoire des islamistes aux élections législatives en Algérie, le GIA s'est lancé dans le terrorisme pour déstabiliser le gouvernement algérien et favoriser l'avènement d'un État islamique. De retour en France, David a toujours l'intention de poursuivre le djihad en Bosnie. Mais contacté par les hommes du GIA, il accepte d'embrasser leur cause. David est alors nommé émir de Chasse-sur-Rhône. À la tête d'un commando de 4 personnes, il est chargé de mettre sur pied une filière d'acheminement d'armes vers l'Algérie. À ce moment-là, le GIA n'a pas encore frappé la France.
Vous allez croiser à plusieurs reprises des personnages tristement célèbres, comme Ali Touchant, Khaled Kelkal. Vous les rencontrez dans quelles circonstances ?
Touchant, c'est moi qui le ramène en France. Parce qu'il est bloqué en Hollande, il n'a plus de papier ni la possibilité de voyager. On me dit qu'il faudrait le sortir de ce pétrin parce qu'il est l'un des personnages clés du réseau que je vais devoir mettre en place. Donc je vais le rencontrer en Hollande et je lui trouve une ressemblance avec un ami d'enfance. Donc je lui dis que je vais aller demander les papiers de cet ami pour les lui ramener afin qu'il puisse rentrer en France. Et il rentre en France comme ça.
Vous rencontrez aussi Khaled Kelkal ?
Dans la foulée.
Dans quelles circonstances ?
Je le rencontre au parc de Ternay. Il y a une vraie affinité. Et c'est un gars d'une intelligence exceptionnelle. Il est réellement brillant.
Comment est-ce que vous me décrirez vos rapports avec ces deux garçons ?
Très peu loquaces, finalement. Quand on parle, ça parle politique, mais jamais d'objectif.
Ouais.
Et je me rends compte que ce qui se met en place ne ressemble pas à un réseau d'acheminement d'armes. Parce qu'on ne m'envoie pas en Bosnie. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de trajet. Ça stagne. Et là... Je me dis que ça sent la patate, réellement.
Donc avant les attentats de Paris, avant l'assassinat
de l'imam Sahraoui,
c'est à partir de là que vous sentez
qu'il est déterminé. C'est là que je sens qu'il faut que j'arrête avec eux. Parce que je me dis, mais c'est bizarre que rien ne se mette en place, alors que tout est là pour que ça puisse être le cas. J'en parle immédiatement aux 3 autres de Chasse-sur-Rhône en leur disant il faut absolument que nous fassions défection de cette mouvance-là, parce que il se met en place quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle et je vous conseille fortement de ne pas y être associé.
Le groupe de David se désolidarise donc du GIA le 29 juin 1995. Pour David, les choses se compliquent. Le GIA a lancé une fatwa contre lui, le condamnant à mort dès le 3 juillet. Le 11 juillet, l'imam Sahraoui est assassiné dans sa mosquée et un fidèle qui s'était lancé à la poursuite des assassins tombe dans la rue sous leurs balles. Le 25 juillet, une bombe explose dans le RER B à la station Saint-Michel. C'est le début de la vague d'attentats de 95 qui va secouer la France. Fin août, David est arrêté. La police le met en garde à vue et dans la tête du djihadiste, il n'y a aucun doute, c'est la torture qui l'attend.
« On va vous torturer, c'est un inéluctable.
C'est ce qu'on vous enseigne pendant des années.
Tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se faire arrêter vivant.
Or, en fait, vous êtes en garde à vue.
Je n'y ai pas droit. Et je suis étonné, on me propose à manger, on me propose à boire, on ne me torture pas, on me propose même l'assistance d'un avocat commis d'office, on me propose également une visite médicale. Donc je vois bien que ce qu'on m'a prophétisé n'arrive pas. Et c'est un premier moment où je commence à me dire qui sont mes ennemis dans cette histoire en réalité ? Visiblement pas l'État français, en tout cas pas au niveau auquel je m'attendais.
En tout cas ça vous ébranle là ?
Énormément. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'en suis arrivé à croire qu'ils allaient me démembrer et me torturer alors qu'ils ne le font pas ? Et je sais bien qu'ils sont... Ils pourraient être fondés à le faire, étant donné le niveau de tension qu'il y a à l'époque. Mais ils ne le font pas, personne ne le fait. Et là, je réalise que je me suis peut-être trompé d'ennemi dans cette histoire. Certainement même. Mais ça ne suffit pas. Et à un moment, je décide de lire. Parce que la pénitentiaire me signifie que je ne peux emprunter que 2 livres par semaine. Donc j'entends 2 par semaine, je vais en lire 2 par jour. Mais pour de mauvaises raisons, par rébellion, par esprit de provocation. Mais au bout d'un moment, je me mets en mode rafale, j'ai une boulimie de lecture. Je lis tout, le roman et le récit, je le mets de côté rapidement. Mais la philosophie, l'histoire, la géographie, la technique, la biologie, la physique, tout ce que je trouve... les classiques grecs, l'Iliade et l'Odyssée, tout ça, je me jette à corps perdu là-dedans et je fais un reset total de ce que sont mes convictions politiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'accuse de terrorisme alors que c'est depuis le départ ta volonté de ne pas laisser s'en prendre à des civils qui t'animent ? C'est l'arnaque totale. Je suis l'exemple que tout intelligent que vous puissiez être, vous allez vous faire arnaquer. Dans cette idéologie. C'est obligatoire. Pour peu que vous adhériez, car elle est là la clé, vous allez vous faire arnaquer.
Comment est-ce que vous vous sentez alors à ce moment-là ?
En réalité, la grande difficulté dans cette histoire me concernant, c'est de ne pas perdre la foi. Politiquement, idéologiquement, c'est la lecture qui me sauve. Socialement, citoyennement, c'est le traitement qui m'est réservé qui me sauve. Mais aujourd'hui, le fait que je n'ai pas viré fou, c'est que j'ai pu conserver cette foi qui était celle de départ que m'avaient transmise les pères de mes amis.
Vous y avez repensé à présent ?
Tout le temps, parce que j'ai sali leur islam. Le vrai choc, un jour, a lieu. J'ai un co-détenu qui n'est pas dans ma cellule, mais qui est dans mon aile. Et il vient me voir, il me dit que gamin, avec son petit frère, sa mère les prend prise de terreur. Elle fuit terrorisée, cette pauvre femme. Et elle veut atteindre la zone libre. Sauf qu'elle n'a pas d'Ausweis. Et il me dit, et là, quand il me dit ça, je sais ce que c'est pour un gitan que de faire ce genre d'aveu. Il ne me le dit pas à la légère. Il me dit que sa mère, pour se sauver, elle et ses 2 enfants, elle était une belle femme et offre ses faveurs à un officier qui lui signe un Ausweis. J'en ai des frissons rien que d'en parler aujourd'hui, puisqu'il me transmet un truc, ce gars-là, à ce moment-là, sur cette conversation-là, le temps s'arrête, l'univers se fige, il n'y a plus d'espace, il n'y a que lui et moi. Et réellement... Il me fait don d'une humanité que je pensais avoir perdue en réalité. Et réellement, qui pourrait bien condamner cette preuve d'amour ultime qu'elle a eue pour ses enfants à se sacrifier charnellement pour sauver la vie de ses 2 fils ? Qui pourrait condamner cette femme-là ? Et je réalise que l'idéologie wahhabite la condamnerait, sans la moindre hésitation. Je ne peux plus assumer ce truc.
David a décidé de s'engager personnellement. Le verdict de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui a été prononcée contre lui à cette époque lui était apparu non pas comme une condamnation sans appel, mais plutôt comme une seconde chance.
On considère que, passé ce temps-là, j'ai une chance de me refaire une place dans ma société. Mmh. C'est un message... d'optimisme phénoménal. C'est un peu comme si ma société croyait plus en moi que moi-même, dans ma capacité à me réintégrer dans une vie normale.
Dans quel état est-ce que vous sortez de prison ?
L'une des étapes clés également de mon retour à une vie normale est lorsque je rencontre la mère de ma fille. Et je réalise à ce moment-là que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas une once de féminité dans mon parcours. Rien.
Une once d'amour, même.
Rien. L'amour, on n'en parle pas. Mais j'ai été un moine soldat pendant près de 10 ans.
Vous vous révélez aussi être quelqu'un de très sensible aux femmes, en tout cas à la sensibilité féminine.
Parce qu'elles sont les seules aujourd'hui dans ce pays à avoir le courage à s'opposer à ce qui est en train de se répandre, parce qu'elles savent, de façon intrinsèque ou de façon relevant du genre, quel est le sort qui leur est réservé. Elles en sont conscientes. Elles sont les premières à monter au créneau, comme l'ont fait les Tunisiennes, comme l'ont fait un tas d'autres femmes dans un tas de pays, parce qu'elles savent très bien quel est le projet et quelle est leur place dans ce projet.
Vous oubliez pratiquement celles qui sont les plus importantes aussi, c'est que la rencontre se fait à nouveau avec vos sœurs et votre maman.
Qui me réintègre dans la place que j'avais laissée vacante quelques années auparavant. Mm-hmm. Ma fille également est celle qui cloue finalement définitivement mon retour à une vie normale. Le jour de sa naissance, je tourne enfin la page sur mon passé. Elle me permet enfin de me projeter dans l'avenir. Mm-hmm. Ce que je souhaite pour ma fille, c'est qu'elle soit traitée à l'égal de tous ses camarades masculins. Je souhaite qu'elle ait le même salaire à compétences égales que tous les hommes en fonction. Mmh. Je souhaite qu'elle puisse réussir une carrière politique, artistique. Je veux que ce pays puisse, comme elle l'a fait avec moi à l'époque, lui offrir tous les possibles.
Qu'est-ce que vous ne voulez pas pour cette petite fille ?
Une société avec une grille de lecture confessionnelle. Une société où quelqu'un peut l'insulter parce qu'elle ne porte pas le voile. Une société où elle ne sera jamais l'égale d'un homme. Une société où elle ne peut pas avoir le choix de se marier avec un non-musulman. Tout ça, j'en veux pas.
David est un papa très protecteur pour sa fille. Elle vit chez sa mère, mais il la voit régulièrement. Pour lui, l'éducation est fondamentale.
C'est pas du piano qu'il faut que tu apprennes, c'est le droit.
Parmi les femmes qui ont compté pour David, il y a Sabrina et Laetitia, ses sœurs.
J'ai du caractère.
Du caractère. Il s'infirmait là déjà.
C'est vrai. En fait, je vous avais mandaté d'être mes ambassadrices pour revenir voir maman.
Oui, bah oui, ça, exactement.
Histoire de renouer les liens.
C'était Laetitia qui avait réussi à.
Oui.
C'était ça.
C'était des jolies retrouvailles quand même.
Ouais,
ouais,
très émouvant et tout. Bien sympathique, ouais.
Mais au début, elle ne pensait pas que j'étais revenu sur Terre. Hein. C'est vous qui l'en avez convaincue.
Oui, tout à fait, ouais.
Nous nous retrouvons chez Sabrina, la plus jeune, en compagnie de son ami Jérémy. À l'époque, ni leur mère aujourd'hui décédée, ni les deux sœurs n'avaient compris les choix de David, mais elles se souviennent qu'il avait beaucoup changé.
Il a essayé de nous infliger justement à faire la prière.
Les infliger.
Oui. C'est un mot qui est fort, ça, infliger.
C'est la vérité. Hein. Ouais. Plus manger de porc, ça commence à être un peu difficile, quoi. Mmh.
Quelle était votre réaction par rapport à ça ? Vous étiez dans l'opposition avec lui ?
Il était constamment derrière moi et tout. c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis bon, moi, je ne me laissais pas faire non plus, parce que j'avais du caractère, j'avais du répondant et tout. Donc, ça a été une période très difficile.
Donc, vous n'êtes pas au courant à l'époque de ce projet, d'aller se battre en Bosnie.
Non.
Alors, finalement, vous vous retrouvez. Vous êtes retrouvés. Il n'y a plus l'ombre d'un doute sur ce frère qui sort de prison et qui est revenu sur Terre.
Mmh. Puis moi, quand je le vois, je fais table rase du passé, en fait. Je suis même plus fâchée, tout ça.
Vous êtes plutôt heureuse de revoir votre
frère.
Ouais,
je suis heureuse, ouais. Ouais, je suis contente, ouais. Donc moi, j'oublie tout et on repart sur une nouvelle base, quoi.
C'est ouais. L'impression que vous avez qu'il est revenu
parmi nous,
comme avant, parmi vous.
Oui, mais il n'y a même pas l'ombre d'un doute de savoir ce qui s'est passé à travers le bouquin.
Il y a aussi le combat aussi qui s'amorce. Vous êtes fière de ce combat que mène David ?
Complètement, oui. Très fière, vraiment. Et on le soutient et on l'encouragera jusqu'au bout, quoi.
Et c'est courageux.
Vraiment.
C'est vraiment courageux parce qu'il pourrait se cacher, ne pas en parler, et au contraire. Vraiment, moi, je suis à 100% avec lui. Hein.
Le combat de David aujourd'hui, c'est d'alerter l'opinion publique, les médias, mais surtout les responsables politiques face aux dérives de l'islam. Un combat difficile pour un ancien djihadiste qui doit d'abord faire admettre qu'il a vraiment changé.
Aujourd'hui encore, j'ai des concitoyens de mon pays qui n'ont pas compris que je suis dans leur camp, qui n'ont pas compris que je suis un républicain, qui n'ont pas compris que je veux défendre la laïcité, comme si un être humain ne pouvait pas évoluer.
L'un des médias que David utilise pour faire passer son message est Internet. Il écrit des articles sur le Lyon Bondy blog, un blog citoyen qui donne la parole aux jeunes des cités sur des sujets d'actualité.
Donc on a la permission de diffuser leur son
en oui,
fond.
Ah oui, il n'y a pas de problème sur d'accord. Ça. Du coup, ces sons, lui, ils sont juste au début. Donc attends, je vais te faire écouter.
À l'époque, Asdine, en tant que président du Lyon Bondy blog, avait été l'un des premiers à tendre la main à David pour lui permettre de faire passer son message. Pour David, qui connaît parfaitement le mécanisme de la radicalisation islamique, il y a clairement un problème dans les mosquées. Certains ouvrages qu'on y trouve seraient plus que tendancieux.
Ce livre, on le trouve dans toutes les mosquées françaises ?
Toutes.
Ok. C'est-à-dire que demain, je vais dans n'importe quelle mosquée et je trouve ce livre.
S'ils ne l'ont pas le jour même, ils l'auront le lendemain.
D'accord, très bien.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des milliers comme lui. Mais le jeune croyant, le néophyte, lorsqu'on lui remet ce livre, il voit que c'est la voix du musulman. Je lis l'arrière du livre. « Ainsi, tout musulman qui suit les enseignements exposés dans ce livre est, sans aucun doute, sûr de se conformer à la loi divine. »
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, alors ?
Ah, bah, c'est édifiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous abordons, par exemple, le statut de l'apostat. Donc, définition, deux points. C'est le musulman qui renie sa foi et devient juif ou chrétien, ou athée ou communiste, de son propre gré, sans qu'il y soit contraint. Ça s'attaque typiquement à la liberté de conscience, qui est garantie par notre constitution. Statut légal de l'apostat. Statut légal. On le convie durant 3 jours à revenir à sa foi. S'il refuse, on lui inflige la peine de mort en application.
D'accord. Qui est l'auteur de ce livre ?
Aboubakar Djezairi, qui est professeur à Médine. Donc il ne peut pas produire quoi que ce soit sans que ce soit validé par la monarchie en place wahhabite. Vous êtes jeune pratiquant. Vous rentrez dans une mosquée dont l'imam vous inspire confiance. Mmh. Et il laisse ce livre à disposition dans la bibliothèque. Vous le lisez pensant que lui l'a validé, quoi qu'il en soit.
Bien sûr.
Puisqu'il est dans cette bibliothèque.
Bien sûr.
Vous allez donc le valider à votre tour, que celui-ci est bien recevable.
Autre exemple de ce qui se trouve dans ce livre.
La punition de la sodomie est la lapidation jusqu'à la mort, qu'on soit marié ou non. C'est-à-dire que ce sont des écrits idéologiques qui vont tréfouiller jusque dans la vie intime des gens. Je suis atterré, réellement, atterré de voir que des imams peuvent tenir des discours s'agissant de comparer nos enfants à des singes et des porcs lorsqu'ils écoutent de la musique parce que les assassins du Bataclan ne voyaient plus des êtres humains mais des singes et des porcs. Je fais le lien. Il y a un lien.
Là,
il serait temps de le réaliser.
Vous faites clairement allusion à un imam qui est à Brest, hein, pour ne pas le citer. Cet imam qui a comparé les gens qui écoutent la musique à des porcs et à des singes.
C'est ça.
Pour moi, des mosquées en France, il en faut. Mais c'est seulement c'est ce qui est dit qui doit être pas filtré, mais qui doit être interdit. Seulement, le politique a peur qu'il soit taxé d'islamophobe.
Voilà.
Donc, à un moment donné, non. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, les musulmans demandent que ça.
Réellement, il va falloir à un moment ne plus craindre ce procès en islamophobie, parce que à quel point je suis islamophobe quand je lis qu'un imam peut valider que je me fasse tuer si j'arrête ma prière au bout de 3 jours. J'ai peur de ce prosélytisme pour peu qu'on le laisse se répandre, car plus il se répandra et plus il sera difficile de le contrecarrer. Ça m'insupporte au dernier degré de laisser se répandre cette idéologie dans un pays qui a été le phare des droits de l'homme, qui s'est endormi sur ses lauriers, qui a cru que la laïcité pouvait se porter d'elle-même. Jamais de la vie. Parce qu'en face, on a des gens qui, eux, travaillent comme des fourmis, hein, tous les jours. C'est des bénédictins, les mecs, hein, ils n'arrêtent jamais. Et nous, on est là, « Oh, mais non, c'est bon, on a tout calé, le religieux, il n'a plus rien à faire dans la cité. » Ben, il revient, le religieux.
Et il revient fort.
Il revient dardard.
Face au problème, Asdine pense que David a un rôle déterminant à jouer. Il est l'un des mieux placés pour alerter les jeunes sur les risques de manipulation.
David, il faut qu'il aille parler dans les lycées. Il faut qu'il aille là où il y a des jeunes. Il faut qu'il aille voir là où ils sont encore 16 ans, 17 ans, et qu'il pose des questions, et qu'il va faire part de son expérience, et qu'il explique pourquoi l'autre façon de voir la vie est complètement fausse. À un moment donné, lui, il a son passé qui plaide en sa faveur. On ne peut pas mettre en doute ses écrits. Ce gars, il devrait être payé pour aller parler aux jeunes radicaux, radicalisés, que ce soit en prison ou dehors, sachant que ça se passe souvent dehors. David ou Rachid Benzim ou Abdennour Bidar, des gens comme ça, ils ont des bagages. Ils peuvent aller leur parler. Mais eux, on les envoie pas. Pourquoi ? Parce qu'ils font pas partie du sérail. À un moment donné, la source, c'est cette pensée qu'il faut arrêter. Il faut à un moment donné que la France dit, il y a certaines pensées musulmanes qu'on accepte, certaines interprétations musulmanes qu'on n'accepte pas. Parce que si je vois dans Milivilud qu'il y a énormément de congrégations chrétiennes qui sont interdites, je vois pas pourquoi on ferait pas pareil avec les musulmans. Les musulmans sont citoyens comme tout le monde, ils doivent voter des politiques, et les politiques, eux, ont le pouvoir, c'est à eux d'être courageux, et ils le sont pas.
Le discours de David commence à être entendu. Le CNRS lui a ouvert ses portes et il participe à des groupes de réflexion face à des politiques et des acteurs sociaux à l'échelle européenne.
Le terrain que nous maîtrisons est celui de la liberté d'expression, est celui des droits de l'homme, est celui de la démocratie, tout perfectible qu'il soit. Et le pari que fait notre ennemi, c'est que nous ayons des doutes s'agissant de nos valeurs. Il serait temps que nous nous réaccaparions celles-ci, réellement, notamment s'agissant de la laïcité, ce qui est le seul moyen pour nous tous, quelles que soient nos convictions ou pas d'ailleurs, de vivre ensemble. Si nous commençons à avoir une société qui se fracture sur une grille de lecture confessionnelle, nos adversaires auront gagné. Il faut vraiment être vigilant.
Pour David, si la laïcité est une base primordiale, il ne faut pas en rester là. Il reste beaucoup à faire. David se veut optimiste. Pour lui, les solutions existent pour peu que tous les acteurs se mettent au travail et s'associent à ce combat.
Il est déjà gagné pour peu que nous nous y mettions sérieusement. Nous avons tout pour réussir, idéologiquement, philosophiquement, culturellement, historiquement. Il suffit de l'organiser. Il faudra des psychologues, des pédopsychiatres, des psychiatres, des sociologues, des islamologues, des historiens, des anciens comme moi djihadistes. C'est-à-dire que je n'entends pas moi seul apporter la recette s'agissant d'avoir la solution. Mais en revanche, je fais partie des ingrédients qui feront partie de cette recette. Mais il faut se mettre au travail dès maintenant.
Vous savez qu'à un moment, vous vous exposez à être en danger vis-à-vis de ces personnes radicalisées.
Je gère et la peur et le danger, c'est mon problème. Ça, c'est... Et de toute façon, alors, je ne cherche pas à mourir martyr pour la République. Hein. J'ai bien l'intention d'arriver à un âge où ma fille se moquera de moi parce que j'aurai des cheveux blancs et plus une seule dent. Il faut quand même relativiser. Je ne suis pas Jean Moulin dans la France occupée par les nazis. Et de toute façon, quand bien même mes adversaires arriveraient à m'éliminer, que j'ai déjà gagné puisque sur mon certificat de décès sera estampillé République française. Donc j'ai déjà gagné.
Avec David, j'ai eu le sentiment de rencontrer un homme particulièrement courageux. Courageux d'avoir su publiquement reconnaître ses erreurs du passé. Courageux de s'exposer comme il le fait aujourd'hui, face à un danger que personne ne peut plus ignorer.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.